Alors, ça me prendra une proposition pour l'enregistrement de la rencontre de ce soir. Denis Fortier.
Je propose. OK.
Parfait. Merci. Alors, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Ouverture de la séance, lecture et adoption de l'ordre du jour, procès verbal de la séance précédente, demande de rencontre, correspondance, comité MRC, gestion financière et administrative, page IEPS, politique de soutien aux projets structurants, politique de soutien aux entreprises, priorité FRR volet 2, rapport final, aide financière pour la mise en commun de services ou d'activités en milieu municipal, dépôt des états financiers, nomination d'un coordonnateur en incendie, suivi du dossier SPA. Aménagement du territoire, modification schéma d'aménagement révisé, plan d'intervention en infrastructure routière, milieu forestier, programme d'aménagement durable des forêts privées, suivi du règlement sur le contrôle de l'abattage des arbres, des forêts, j'ai pas tout le... Appui à la résolution Sacré-Cœur de Jésus, les bons coups de nos municipalités, cours d'eau et environnement, financement du programme de subvention amélioration des cours d'eau, arrachage manuel sélectif, délégation de la MRC aux responsables du volet génie, etc. Demande d'aide financière de Robec, développement économique, reddition de compte FDT, rapport annuel FDT, affaires nouvelles, projet de loi 61, discussion. Avez-vous des ajouts? Ça va? Merci. Une proposition d'adoption de l'ordre du jour. François Barry. Procès-verbal de la séance précédente. Vous avez tous reçu le procès-verbal. Est-ce que quelqu'un qui veut en proposer l'adoption? Jacinthe Patry, est-ce que vous avez des commentaires, des remarques concernant le procès-verbal? Merci. Correspondance?
Au niveau de la correspondance, on avait quelques éléments. Ce ne sera pas bien long. La première correspondance qu'on avait, c'est une lettre au niveau du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant la prolongation du délai pour l'utilisation des sommes versées aux municipalités dans le cadre de la légalisation du cannabis. Fait qu'on se rappelle qu'on avait une aide financière sur 2 ans. Le centre de Rémy était venu nous présenter, il y a de ça 2 ou 3 conseils, le projet. On en avait fait le suivi, il est lancé, mais on a eu la lettre de confirmation comme quoi qu'il y a un report jusqu'en juin. L'année prochaine, dans le fond, pour l'engagement des sommes en raison de la situation qu'on vit actuellement. Fait qu'ils pensaient encore là être en mesure de le réaliser pour le 31 décembre cette année, mais au moins, ça va laisser une certaine marge de manœuvre s'il reste des actions et des engagements à prendre à ce niveau-là. Pour les autres correspondances, on a reçu également la correspondance au niveau du MAMARCH au niveau du Fonds Région Ruralité concernant le volet 3. Qui est le volet signature innovation. Fait que c'est vraiment, on a eu la confirmation qu'on a un montant de, ça va être une somme de 266 000 $ annuellement. Donc, sur un horizon de 5 ans, dans le cadre de cette entente-là, ça va être dans le fond environ 1 300 000 qu'on va avoir à notre disposition. Il va y avoir une réflexion qui va s'amorcer. Fait que ça, vous allez être interpellé, je dirais, rapidement comme ça pour débuter la réflexion parce qu'il va y avoir un travail à faire avant de dire dans quoi qu'on va être en mesure d'engager ces fonds-là. Puis il va seulement nous rester, on se réveille avec 4 volets, il va seulement nous rester à la signature de l'entente pour le volet 4 qui était en lien avec les territoires dévitalisés. Fait que c'est le seul en date d'aujourd'hui qu'on a reçu de confirmation. La troisième correspondance, c'est au niveau du MTQ. Je vous ai partagé les documents aujourd'hui. On était censé, avant la situation du COVID, avoir la présentation qu'on a sur une base annuelle avec le MTQ qui vient nous présenter les travaux, les projets qui ont été acceptés comme on avait eu l'année dernière. Malheureusement, ils ont annulé la rencontre physique et même la rencontre du Zoom à ce niveau-là pour participer. Toutefois, ils nous ont acheminé au moins la présentation. Fait qu'encore là, vous pourrez en prendre compte. Si vous avez des questions ou des commentaires à ce niveau-là, je vais m'assurer de faire le suivi. Puis si on veut vraiment avoir une rencontre avec eux autres, mais on pourra en solliciter une, mais ultérieurement. Fait que c'était les 3 correspondances.
Merci, François.
On avait amené l'an passé les problématiques qu'on avait reliées aux affiches sur le long de la 112. C'était la problématique à plus qu'un endroit, là, East Broughton, Thetford, tout ça. Je sais que nous, ça n'a pas avancé malgré les démarches qu'on a faites. Je ne sais pas si ailleurs, il y a eu des avancées que je n'ai pas vues, là, mais j'aurais aimé le savoir.
Marc-Alexandre?
Juste pour être sûr, François, tu parles de quel type d'affiche? Parce que nous autres, on avait plusieurs dossiers différents avec plusieurs types d'affiches. C'était tout problématique, mais il y en a qui avancent, il y en a qui n'avancent pas.
OK. Nous, c'était pour annoncer, dans le fond, notre motel industriel, là, tu sais, puis ce qu'il y a à l'intérieur. Puis c'est comme ça longe la 112. Puis on voulait que ça puisse se faire, mais c'est la MTQ ne l'autorise pas encore à date.
Bien, quand on parle d'une autre enseigne de notre parc industriel, ça, on a réussi à le faire avancer. Mais les enseignes directionnelles pour des panneaux qu'on met sur le bord de chemin pour annoncer, mettons, le centre-ville, des choses comme ça, ça, on n'a pas réussi. Puis les panneaux électroniques, ça, ça a fonctionné. Fait que, quand je dis que c'est tout... on ne sait jamais à quoi s'attendre avec eux autres. Là. Mais c'est tout différent, puis il y a des problèmes partout au début, puis on en règle un de temps en temps.
Merci.
Ce n'est pas le ministère le plus facile, on s'entend. Je vais vous raconter une anecdote. Je venais d'arriver maire et il y avait des glissières le long de la 269 qui étaient dans un état pitoyable. Quand je dis pitoyable, là, écoutez, à des places, il n'y en avait plus pantoute, puis il y avait des gros ravins. Puis j'avais écrit au ministère pour leur demander de changer ça. J'avais eu une réponse assez sec. C'était pas dans les budgets. Fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais été prendre des photos, des glissières. Je les avais envoyées photos. Je leur avais dit que le prochain accident qu'il y aurait, je ferais une conférence de presse, puis que je les rendrais responsables de la situation. Ils m'ont jamais répondu, mais un mois plus tard, ils étaient venus réparer les glissières. Drôle de façon de travailler avec les municipalités. Voilà. Comité MRC, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Je vous demanderai d'être bref. Si vous voulez faire un résumé des comités qui ont lieu, ça va? Merci.
Monsieur Vachon?
Oui.
Juste pour dire que je viens de déposer à M. Laferrière le plan d'action de Gros-Bec qui est adopté, que je vous parlais tout à l'heure. Et ce qu'on retrouve peut-être d'intérêt, si j'y vais brièvement, c'est quand on regarde dans le plan d'action, au niveau de la mise en œuvre des actions du plan directeur de l'eau, Gros-Bec a fait figurer et fait adopter par l'Assemblée générale annuelle de développer un plan de contrôle des sédiments amiantés dans la Haute-Bécancour. Et pourquoi j'apporte l'information auprès du Conseil des maires, c'est que souvent, politiquement, on semble encore attendre après le positionnement du BAP. Mais c'est quand même pour vous dire que aussitôt que le BAP irait avec quelque chose de concluant au niveau du contrôle des sédiments amiantés dans la rivière Bécancour, que le plan d'action de Gros-Bec prévoit déjà des actions. Et malheureusement, on commence à avoir de la difficulté à attacher tous les acteurs autour de cette idée-là. Donc, je pense qu'il va peut-être falloir, au niveau du comité environnement de la MRC, de bien analyser ce qui est proposé de leur part pour être capable d'agir rapidement quand on aura les conclusions du Bureau d'audience publique en environnement.
Je pense à ce moment-là, M. Hamel, que quand on aura les conclusions, ce serait peut-être bon d'avoir une réunion pour être capable d'en suite.
J'en prends bonne note et je le transmettrai au niveau du comité exécutif. Merci.
Merci.
Donc, j'en prends note également avec le comité. Je ferai le suivi avec Cynthia également pour le comité consultatif environnement. En effet, quand on aura les conclusions, mais ça vaudra la peine de s'asseoir tout le monde ensemble.
Ça va? Autre chose? Merci. Gestion financière administrative, PGEPS. Adoption du rapport d'activité du rapport final pour la solidarité en Chaudière-Appalaches. Il me manque des bouts. Moi. Oui, Louis?
Oui, en fait, c'est ça. C'est vraiment avec le PAGEP. On se souvient, on en a parlé avec même au niveau des états financiers. On est fiduciaire pour le fonds au niveau du PAGEP. Donc, on est responsable au niveau de la région de Chaudière-Appalaches de faire la reddition de compte et de produire les rapports financiers adoptés à ce niveau-là. Fait que c'est ce qui vous a été partagé dans les documents. Donc, vous avez eu l'information en main. Donc, ça me prendrait à ce niveau-là un proposant, tant pour le rapport d'activité pour l'ensemble des projets, mais également pour le rapport financier qui vous a été partagé.
Youhou! OK. Denis Fortier. politique de soutien aux projets structurants?
Oui, en fait, la politique de soutien aux projets structurants, on a eu une rencontre avec le comité FDT pour vraiment, je dirais, faire un premier tour de roue là-dessus. On se souvient que la politique de soutien aux projets structurants, mais également le prochain, la politique de soutien aux entreprises, ça nous prend ces deux politiques-là adoptées et à jour pour qu'on soit en mesure de recevoir les fonds au niveau du nouveau fonds Région Ruralité, le volet 2, qui est l'ancien FDT qu'on connaît. Donc, on se doit d'avoir ces politiques-là à jour adoptées, mais également les priorités qui viendront au point 7.4. Donc, principalement au niveau de la politique, ce qui a été proposé par le comité puis le CA, qu'on aura discuté de certains éléments également à ce niveau-là, c'est vraiment d'y aller avec, dans un premier temps, une année transitoire pour l'année en cours, pour qu'on soit en mesure, encore là, rapidement, de faire des appels à projets dans chacune des municipalités, un petit peu comme on faisait par les années passées, pour qu'on soit en mesure, ceux qui ont déjà des projets en cours ou en développement, qu'ils soient en mesure de les déposer puis qu'ils puissent aller de l'avant. Donc, on va y aller comme ça dans un horizon transitoire. Ça nous laissera la chance dans la prochaine année de vraiment poursuivre les discussions avec le comité, mais également avec l'ensemble des maires pour voir si on veut vraiment rebrasser les choses, tant au niveau de nos priorités, mais également des fois au niveau du mode de la répartition de l'enveloppe, puis vraiment évaluer l'ensemble des possibilités. Fait que comme ça, on se laissera la première année transitoire. Donc, la proposition au niveau de la politique de soutien qui vous est proposée, c'est de se réserver pour la prochaine année, en fait, l'année 2020-2021, avec le volet 2, une enveloppe totale de 400 000 $ pour, dans le fond, mettre en œuvre des projets avec les appels de projets. Ce qui a été proposé également, petite mention peut-être différente des autres années, les deux éléments majeurs qui sont changés, c'est le montant maximal admissible pour les projets, de les augmenter, de passer de 7 500 $ à 15 000 $ par projet, mais tout en gardant quand même le même ratio de 70% maximal de financer avec le fonds, puis un 30% de mise de fonds à ce niveau-là. Fait que c'est le principal changement. Et vu qu'on augmente comme ça la contribution, on proposerait également d'y aller avec une version de se réserver dans le cadre des deux appels à projets, un appel à projet en septembre puis un appel à projet en février, de au moins réserver pour chacun des appels à projets un montant de 200 000 $ par appel de projet pour vraiment permettre de s'assurer qu'il restera des fonds quand même pour ceux qui vont le travailler plus déjà dans l'optique de le déposer dans le deuxième appel de projet. Mais comme ça, on va s'assurer qu'il restera quand même des fonds dans chacun des appels de projets qui pourra être fait, là. Fait que c'était les principaux changements qui étaient recommandés, sinon au niveau tant des critères d'analyse que des priorités qui sont soumises à l'intérieur de la politique, on demeurait sur la même base, là. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des questions à ce niveau-là.
Vous devez comprendre que ce n'est pas un bar ouvert, là, dans le sens que c'est sûr qu'il y aura des projets qui ne sont pas acceptés. Ils doivent répondre à des critères qui sont connus d'avance là, par ceux qui présentent des projets. Jacques Lessard.
Vous avez changé, en fin de compte, le pourcentage. Auparavant, ce n'était pas 80-20. Vous avez ramené ça à 30-70?
C'est peut-être 80-20, mais bref, c'est peut-être mon erreur à ce niveau-là, mais on garde la même chose qui se faisait dans les dernières années, là. Fait que c'est là-dessus, il n'y avait pas de changement.
Puis tu parles 200 000 septembre, 200 000 décembre?
Février.
200 000 septembre, puis 200 000 février.
Oui.
OK, merci.
Autre question, commentaire?
M'entendez-vous?
Oui, oui. Je vous ai enlevé le mute.
Oui, OK, excuse. Hey, regarde, le premier fonds de territoire, on savait comment on avait d'argent pour les trois prochaines années. On pouvait faire de gros projets. Moi, j'ai bâti ma garderie, moi, avec. Je savais que dans trois ans, j'avais 90 000 piastres. Mais on pouvait faire des gros projets. Tandis que là, on fait juste des petits projets, puis on ne peut pas se lancer dans un gros projet qu'on a, que la municipalité a. Moi personnellement, j'ai trouvé que le premier programme qu'on avait, c'était, on avait 30 000 par année, c'était sur 3 ans. J'avais 90 000 tiers que je savais que j'avais. Là, on est sur un programme avec des tu sais, 15 000 aujourd'hui. 7 500, tu fais pas grand-chose aujourd'hui. Tu fais pas des gros projets, puis 15 000 non plus. Je sais pas, j'ai de la misère à concevoir pourquoi qu'on, je sais pas le montant total, je sais pas comment que vous pouvez gérer ça, mais par contre, on peut pas faire de gros projets.
J'avais raison, M. Chabot, puis si je me trompe, là, Marc-Alexandre, Jessica, puis Gaston, puis Louis, vous pourrez me corriger. On en a discuté de ça, puis ça fait partie des projets. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait déposer, il y a un projet, mais on sait que son projet, il a besoin de X montant, puis il sait qu'il va le réaliser dans X années, ou qu'il va le commencer, il va le financer, mais qu'il pourra être financé par après, là, dans une portion plus grosse. Il me semble qu'on en a discuté et qu'on avait dit que c'était admissible, ce type de projet-là. Si je me trompe, là, corrigez-moi.
Oui, bien, à ce niveau-là où on a parlé, puis peut-être pour répondre aussi directement à M. Chabot, corrigez-moi à ce niveau-là, mais c'est sûr que vous faites référence à peut-être plus une répartition par municipalité pour vraiment connaître les montants. Je vous dirais que ça a été un peu le cœur des discussions qu'on a eues un peu dans la première rencontre, justement, avec le comité pour voir un peu de quelle façon qu'on pourrait répartir et selon quels critères. C'est pour ça qu'on a décidé plus de se donner une première année transitoire, je dirais, vraiment dans le but d'approfondir un petit peu cette répartition-là pour les 4 prochaines années. C'était le souhait également, beaucoup ce qui était communiqué au niveau du comité initialement dans les réflexions puis les bilans qu'on avait fait des dernières années. Fait que l'objectif de l'année transitoire, c'est vraiment au moins pour permettre rapidement de mettre en œuvre ce qui est là, mais de poursuivre justement cette discussion et cette réflexion-là pour, oui, peut-être avoir un mode de répartition qui est différent, voire par municipalité, pour connaître les montants à l'avance également.
Parfait, merci.
Autre question, commentaire?
Mais moi, personnellement, Jamel, je vais dans le sens que Philippe vient de dire, parce qu'effectivement, quand on savait les montants qu'on aurait pour les 5 années, on pouvait réaliser des beaux et des gros projets. Ça a été le cas pour nous. On n'a pas fait 20 projets, on en a fait 3, mais c'était des gros projets.
Mm-hmm. Exact. Il y avait Pascal.
Je vais renchérir sur Philippe et sur Ghislain. Dans la première mouture, ce qui était intéressant, c'était justement quand il y avait des projets qui pouvaient être identifiés par la communauté avec un montant d'argent, ça pouvait mener justement à un choix de la communauté et non pas au présent. Mais c'est sûr que l'appel de projet dans la deuxième mouture a amené des plus petits projets. Mais je prends chez nous, par exemple, si on n'avait pas eu le FDT, on n'aurait pas pu renaître les services de proximité à Sacré-Cœur de Marie, parce que le choix de la municipalité puis de la communauté à l'époque, c'était de prioriser le retour, notamment par une coopérative d'un bâtiment de service avec le retour des services dans ce village-là. Et que s'il n'y avait pas eu ça dans la première mouture, il n'y aurait pas eu une renaissance de ces services-là dans le village de Sacré-Cœur-de-Marie. Fait que dans ce sens-là, je pense que l'analyse qu'on devra faire, peut-être pour se donner du temps, c'est de voir comment on peut avoir des projets structurants tout en gardant une espèce d'appel de projet. Parce que dans un cas ou dans l'autre, il y a des avantages et des inconvénients.
Et il y a deux choses dans ce que vous dites, puis je vais essayer de comprendre. Là. Quand vous dites on aimerait connaître le montant que les municipalités vont avoir, il n'y a pas de montant que les municipalités vont avoir. C'est un montant global de MRC, puis les projets viennent des municipalités ou de partenaires. Mais ce que je comprends aussi, puis ce que je trouve pertinent puis bon, là, c'est que si tu as un projet de 200 000, tu sais que tu peux avoir un projet, mettons, de 15 000, mais tu sais qu'on est capable de financer pour les 3-4 prochaines années. C'est ça que je trouve qui pourrait être encourageant. Là. C'est tout ça que je comprends. Parce que ça, moi, je pense qu'on devrait en discuter parce que je trouve que c'est une bonne chose.
Bien, je pense qu'on parle de deux choses différentes à ce niveau-là. Il y a la répartition par municipalité, ce qui n'est pas le cas dans la proposition actuelle, comme vous dites, M. Vachon. De ce que je comprends, c'est que les comme M. Chabot, M. Hamel et Pascal ont mentionné, c'est qu'il y a un souhait dans une mouture vraiment qu'on vienne peut-être par une répartition comme ça par municipalité pour vraiment connaître à l'avance c'est quoi les fonds. Mais le point de M. Vachon à ce niveau-là, puis c'est vrai qu'on en avait discuté aussi en comité, à savoir avec un projet comme ça, avec un appel à projet de maximum 15 000, s'il y aurait un dépôt d'un projet avec un montage financier d'un 45 000 $ et qui est réparti sur un projet de 3 ans, est-ce qu'on est à l'aise de prendre l'engagement au niveau du Conseil des maires de réserver des fonds comme ça d'un 15 000 $ par année, mais sur dans le fond pour une période de 3 ans?
Gaston Nadeau?
Oui, M. Nadeau.
Ouais, c'est ce qu'on a discuté aussi, c'était la façon, mettons, de répartir un montant d'argent pour chaque municipalité ou la ville de Tetford, qui était difficile à savoir quels critères qu'on se basait, la richesse uniformisée ou la population ou autre, pour déterminer quel montant qu'on pouvait attribuer à une municipalité versus un autre. On ne pouvait pas arriver avec tout le même montant. Fait que c'était ça qui était problématique. C'est pour ça qu'on a dit qu'on attendrait l'année prochaine pour discuter, pour voir quels critères qu'on pourrait pour analyser, pour déterminer, à venir le cas qu'on détermine un montant d'argent par municipalité sur 5 ans, mettons. Mais c'était de trouver la façon de calculer pour que ce soit juste équitable envers tout le monde.
Ça va?
François?
Ben oui, moi ça me va dans le sens que si on prend le comité de travail cette année, justement de façon transitoire en considérant quels pourraient être les nouveaux critères avec ce qu'on vient d'émettre entre autres là, comme opinion. Ça va évoluer durant l'année, mais moi, pour cette année, je trouve ça bien correct. Je serai à le proposer, il n'y a pas de problème.
C'est bon? Oui, M. Hamel.
J'aurais un commentaire à faire. C'est que certaines municipalités, comme la mienne, il n'y a seulement qu'une employée qui se tape l'ouvrage sur toutes. Alors, quand il vient le temps de monter un projet, tu ne peux pas dire à un employé, quand on a 4, 5, 12, ou comme la ville de Tetford, une centaine, je dis n'importe quoi, là, mais au moins ça, c'est plus facile de déléguer quelqu'un, de dire tu vas monter un projet. Alors, il y a des municipalités qui, à chaque séquence, en septembre et en février, auront eu le temps de monter. Mais les petites municipalités, c'est un peu différent. Et on ne peut pas se fier nécessairement sur le bénévolat. C'est un commentaire.
Vous avez raison, M. Hamel, puis on en a discuté également de ça. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'être capable de répartir la chance un peu à tout le monde, parce que c'est vrai qu'on a des réalités qui sont tellement différentes. Et maintenant, il peut y avoir des projets aussi qui peuvent être communs, là, tu sais. Il faut être capable de se donner les moyens de les financer aussi. Tu sais, prendre la pointe de table, divisé en 19, ça ne marchera pas parce qu'on a de la moitié de la population qui habite une ville et le reste est ailleurs. La richesse foncière, ça ne marchera pas. C'est d'autres choses aussi. Ça fait qu'on a plein de réalités. Fait qu'il faut trouver un moyen, un mode d'opération entre nous autres là, qui va nous permettre d'avoir le meilleur de ce qu'on pourra avoir là, présentement. Mais l'idée, en tout cas, d'être capable de financer un projet qui coûte 3 fois, 4 fois, mettons 15 000, moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est vrai ce que vous dites, M. Hamel. On va s'en tenir à des petits projets qui ne sont pas structurants, alors qu'on peut en avoir chez nous, dans nos milieux, qui vont devenir structurants, mais ce n'est pas des projets de 15 000 piastres, c'est des projets plus hauts que ça. Et si le projet a été accepté par le comité avec les critères qu'on connaît puis qui est bon, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas bon la deuxième année ou la troisième année.
Cet aspect-là me plaît.
Oui, il me semble qu'on pourrait avoir de l'ouverture là-dessus, là, mais s'il faut réunir le comité, on le fera, là, mais c'est une demande qui m'apparaît légitime, en tout cas. Ça va? Avez-vous d'autres commentaires? Est-ce qu'on prend une proposition là-dessus, Louis, ou si on s'en va plutôt vers une réflexion?
Non, j'ai vu qu'on avait... pour l'année transport, comme ça, pour le versement des fonds, ça prend, j'irais avec l'adoption comme ça de la politique, dans le fond, avec les modifications qu'on proposait de monter le seuil à 15 000 puis aller avec deux appels à projets avec un fonds de 200 000 $ Mais pour les autres critères, on gardait ça sur la même base que les dernières années qu'on a connues, dans l'optique qu'on va le travailler l'année prochaine.
Parfait. Alors, ça me prendrait une proposition.
François Barry l'a proposé.
Oui, c'est parfait. Politique de soutien aux entreprises.
En fait, c'est un peu dans le même sens que l'autre. Par contre, à ce niveau-là, il n'y aura aucune modification à l'ancienne politique de soutien aux entreprises. En fait, c'est un peu le mandat. Ça définit un petit peu au niveau de la politique le mandat qu'on donne à la SDE. Donc, quand bien même qu'on change de fonds, on garde un petit peu les mêmes éléments. Le seul ajout, en fait, qu'il y a eu, c'est on donnait le mandat pour le FLS, le FLI. Mais là, il y aura eu l'ajout pour le fonds au niveau du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises qu'on avait déjà délégué, mais qu'on va inclure dans cette politique-là pour donner officialiser le mandat au niveau de la SDE.
Ça prend une proposition là-dessus?
Oui, encore là, ça me prend une proposition.
Oui, proposé par
Jean-Claude.
Priorité FRR volet 2.
En fait, encore là, c'est encore dans la même vague que pour les autres. C'est en lien avec les versements, il faut définir nos priorités. Fait que ce qu'on vous proposerait encore là dans le cadre de l'année transitoire, c'est de conserver les mêmes priorités que dans les dernières années, soit d'assurer la rétention de la population et de la main-d'œuvre, développer une vision commune et partagée sur l'ensemble du territoire de la MRC et en faire la promotion, s'assurer un développement économique, agroalimentaire, touristique, social, culturel, rural et technologique, préserver et améliorer la qualité de vie et la qualité de l'environnement, assurer l'accessibilité aux services, santé, transport collectif, éducation, formation.
Proposition? François Barry. Commentaire, question? Rapport final, aide financière pour la mise en commun.
Oui, c'est en fait, c'est en lien avec le projet de régie incendie au niveau du secteur sud. On se souvient qu'à la fin 2018, on avait reçu une subvention pour la mise en commun au niveau du MAMACH pour lancer l'étude, qui était principalement les frais qui étaient rattachés à ça, l'exercice comptable, puis l'inventaire qui avait été fait par la firme Manaction. Il n'y aura pas, en date d'aujourd'hui, de nouvelles sommes d'engagés avec le projet qui avait été déposé dans le projet de coopération. Donc, la proposition à ce niveau-là, c'est vraiment d'y aller avec l'adoption du rapport pour fermer le dossier auprès du ministère à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que le projet est clos en soi, mais du point de vue de la subvention au niveau du ministère.
OK. Proposition? Jacques? Jacques, ton son n'est pas là. On ne t'entend pas. Vas-y, Jacques.
Oui. Oui. Oui.
Oui. On fait qu'on l'a pris. Ça? Oui, Jacques.
Le projet il est clos si on a besoin d'argent.
Bien, en fait, oui, bien, c'est ça, ça l'a coupé un peu, mais juste pour expliquer le topo au niveau de la coopération municipale, c'est que c'est un projet qui était fermé là-dedans. On a été chercher une subvention qui finançait jusqu'à 50 % pour aller chercher l'enveloppe comme ça du 50 % mais il fallait déposer un projet pour justifier les fonds. Puis c'était l'inventaire du milieu puis l'exercice comptable qui avait été fait. Puis on avait reçu un montant en conséquence. Fait que même si, en date aujourd'hui, on a des nouvelles dépenses à faire pour poursuivre les études, mais ça ne sera pas en lien avec le fonds de coopération qu'on avait eu. Fait que c'est pour ça que lui, il est comme clos en soi. Il va y avoir des nouvelles appels à projets. Fait que s'il y a d'autres choses, bien, ça serait de refaire une nouvelle demande en coopération intermunicipale à l'automne pour aller chercher des nouveaux fonds.
Ça va?
Parfait.
Merci. Fait.
Exact. Puis c'est ça, suite à un commentaire, ça, Jean-François m'a envoyé comme commentaire. Je vais vous partager mon écran avec le conseil des maires. Fait que tout le monde, au moins ceux qui peuvent avoir accès à l'écran, ils vont voir les résolutions aussi puis l'ensemble des points. Là.
Hey, Colin.
On va mettre nos lunettes.
Je vais vous laisser le temps de mettre les lunettes.
Comment
alors? On va être rendu au point 7.6.
Oui.
Qui était en fait le dépôt des états financiers.
Mm-hmm.
Fait que je vous laisse poursuivre, M. Vachon.
C'est parce que dans une situation... Attends un petit peu. C'est parce qu'en partageant ton écran, moi, je ne suis plus capable de voir les autres, là.
Bon, je vois juste 4 je vais l'enlever dans ce cas-là, ça va être plus simple.
OK, merci. Parce que moi, je me suis mis un tout petit écran à côté là, pour l'ordre du jour, mais je peux voir tout le monde. Sinon, je ne suis plus capable de.
Je vous en prie, M. Vachon. Excusez-moi.
Merci beaucoup. Alors, dépôt des états financiers, on a eu la présentation tout à l'heure avant la réunion du Conseil des maires. Alors, il s'agirait maintenant des. Ouais. On va les adopter, j'imagine.
Oui, je propose.
OK, merci.
Je pense que c'est juste un dépôt.
Oui, je pense que c'est juste un dépôt qu'on faisait, mais ben, on l'aura.
C'est ça. Nomination coordonnateur à incendie?
Oui, en fait, c'était. On avait procédé à l'affichage à ce niveau-là pour le poste de coordonnateur suite à. Dans le fond, au départ, mais en fait, de Kyle qui avait pris une année sans solde. Donc, c'est pour pourvoir le poste. Fait que ça va être vraiment pour pourvoir le poste comme ça sur une base du remplacement de Kyle. Fait que c'est un point aussi qu'on pourrait ajouter à ce niveau-là pour la résolution, vraiment de le rattacher avec une date qui était prévue dans l'affichage du poste à ce niveau-là. On a reçu à ce niveau-là une candidature qui est la candidature d'Émeric Jacques, qui est l'actuel préventionniste en sécurité incendie. Donc, la proposition de ce soir à ce niveau-là, c'est d'y aller avec la nomination d'Émeric Jacques pour le poste de coordonnateur, mais toujours pour la portion qui était rattachée au budget pour le titre de coordonnateur qui est à raison d'un 10 heures semaine pour remplir cette fonction-là. C'est sûr que pour la suite des choses au niveau de la fixation du salaire, bien c'est le processus normal prévu à la convention collective à ce niveau-là. Fait que ce serait vraiment une combinaison de deux tâches. Un 24,5 heures pour préventionniste puis un 10 heures pour le poste de coordonnateur.
Ça va? Oui, Guiroy. Suivi dossier SPA.
C'est simplement pour faire un petit suivi. On en avait parlé à la dernière rencontre aussi qu'on travaillait le dossier comme ça pour voir les possibilités de peut-être travailler une entente régionale. On a une première rencontre avec la Ville, avec Sylvain Tremblay, comme ça pour vraiment approfondir peut-être plus la notion, je dirais, au niveau des enjeux, des coûts. Et on a une seconde rencontre qui est prévue le 23 juin prochain, qu'on va être plus en mesure, je dirais, lors de cette rencontre-là, d'aller en profondeur pour vraiment évaluer les possibilités puis avoir des scénarios à vous proposer. Fait que ça, on sera en mesure de vous faire un suivi au conseil de juillet à ce niveau-là.
Oui, M. Hamel.
La loi est rentrée en vigueur le 3 juin de plusieurs municipalités. Je pense qu'ils ont déjà résolu le problème, dont la nôtre, Saint-Julien, Saint-Adrien, Irlande. Il s'agirait peut-être de faire une vérification auprès des municipalités.
Oui, bien, je dirais l'objectif, c'est vraiment, vu qu'on fonctionne beaucoup au niveau des municipalités sur avec des ententes annuelles, que ce soit au niveau de la SPA ou de d'autres organismes comme ça, bien, c'est d'évaluer pas pour l'année en cours de mettre des choses en place, mais vraiment peut-être plus à partir de 2021-2022, voir qu'est-ce qui pourrait être possible régionalement de se doter, qui répondrait vraiment au niveau de la réglementation, au niveau des normes, mais vraiment de s'assurer qu'on a un service aussi qui répond à l'ensemble des besoins au niveau de la région. Là.
OK.
Parce qu'on comprend qu'actuellement, il y a des municipalités qui ont des ententes avec la SPA. Il y en a qui n'en ont pas. On marche comme on peut. Puis de toute façon, la SPA nous l'a dit, ils ne peuvent même pas tout accueillir les 19 municipalités à l'heure actuelle. Alors, c'est pour ça, c'est une solution à long terme. Ce n'est pas une solution immédiate. Aménagement du territoire suivi aux modifications au schéma d'aménagement révisé. Cynthia?
Oui, dans le fond, pour le premier projet, c'est en lien avec le projet de règlement 197 qu'on avait adopté déjà il y a quelques semaines, ben, quelques mois. En fait, on l'a adopté au début janvier, donc à la séance de janvier, ce projet de règlement-là. On avait prévu faire une consultation publique le 19 mars dernier. Sauf qu'au même moment, comme on allait faire cette consultation-là, est arrivé le décret qui disait qu'on ne pouvait plus faire de consultation publique en personne. Donc, on a annulé cette consultation-là et en se disant, bien, on la reprendra quand la normale reviendra, ce qui n'arrive pas encore. Dernièrement, le 7 mai, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, a décrété un nouvel arrêté ministériel qui permet une nouvelle procédure, une alternative finalement aux consultations publiques en personne, c'est-à-dire de faire une consultation publique, une consultation écrite de 15 jours. Donc, on a besoin d'un avis public, on va expliquer ce qu'on explique habituellement dans un avis public, mais on va offrir la possibilité plutôt de faire une consultation écrite pour laisser les gens pouvoir s'exprimer sur ce projet-là. Il y aura une présentation qui sera faite, une présentation possiblement PowerPoint, qui sera diffusée sur notre site Internet pour que les gens puissent aller consulter et ensuite pouvoir émettre des commentaires. Mais pour tout ça, pour être capable de faire de remplacer la consultation publique normale qui est prévue, ça prend une résolution du conseil.
Est-ce que vous l'avez rédigée, cette résolution-là?
Oui.
OK. Pouvez-vous la lire?
Attendu que le projet de règlement numéro 197 modifiant le schéma d'aménagement révisé a été adopté par résolution à la séance ordinaire du Conseil de la MRC le 12 février 2020. Attendu que tout règlement modifiant le schéma d'aménagement révisé doit être précédé par au moins une assemblée publique sur le territoire de la MRC, et ce, avant son adoption finale. Attendu que la MRC avait planifié une assemblée publique de consultation le 19 mars 2020, mais qu'en raison de la pandémie reliée à la COVID-19, cette assemblée publique n'a pu être tenue. Attendu que la MRC a demandé, en vertu de l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, son avis sur la modification du schéma d'aménagement révisé et que l'avis préliminaire mentionne que le projet de règlement est conforme aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Attendu que le 7 mai 2020, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, a adopté l'arrêté ministériel 2020-033, établissant une procédure alternative aux procédures décisionnelles municipales nécessitant le déplacement ou le rassemblement de personnes. Attendu que le conseil de la MRC peut déterminer que l'assemblée publique prévue à l'article 53 de la LAU soit remplacée par une consultation écrite de 15 jours, annoncé préalablement par un avis public. En conséquence, il est proposé par et résolu unanimement que le Conseil de la MRC des Appalaches remplace l'Assemblée publique sur le projet de règlement numéro 197 modifiant le schéma d'aménagement révisé prévu par l'article 53 de la LAU par une consultation écrite de 15 jours, annoncé préalablement par un avis public, que cet avis public décrive le projet qui devait faire l'objet d'une assemblée, précise l'adresse web à laquelle une présentation détaillée du projet est diffusée et indique que toute personne peut transmettre des commentaires écrits par courriel ou par courrier pendant 15 jours suivant la publication de l'avis.
Je vais demander à Mme Boucher de lire la résolution parce que nous sommes enregistrés, je vous le rappelle. Alors, ça me prendra une proposition. Denis Fortier.
J'aurais un commentaire.
Oui, M. Hamel. Ghislain Hamel, oui.
Les recommandations écrites, les commentaires écrits, est-ce qu'il va y avoir une possibilité que certains soient appliqués à l'amendement? Ou
Effectivement, c'est sûr que les commentaires qu'on va recevoir, on aura à en discuter éventuellement avec le comité d'aménagement.
Un peu comme... quand on tient les commissions porcines.
Mm-hmm.
D'accord.
Ça va? 8.2, plan d'intervention en infrastructure routière locale. Louis? Cynthia?
Oui, ça va être Cynthia.
Okay.
Donc, on a le ministre des Transports qui ont ajouté des nouvelles sommes prévues pour l'entretien des routes locales. Donc, en mars dernier, il avait ajouté un budget additionnel pour l'année 2020-2021 pour l'amélioration et l'entretien du réseau routier local. Mais en raison de la COVID, en avril, il a aussi rajouté une nouvelle bonification de 100 millions pour encore là les mêmes projets d'amélioration et d'entretien du réseau routier local. Mais il y a toujours de l'argent aussi pour les plans d'intervention et les plans d'intervention pour la voirie locale, pour le réseau routier local. Et ce qu'ils disent là-dedans, c'est qu'à partir de la troisième année d'un PIR, ce qu'on appelle le PIR, on a le droit d'aller chercher les sous. On peut appliquer sur le programme pour être capable de revoir ce PIR-là. Et dans notre cas, le PIR a été adopté ou est rentré en vigueur en mai 2016. On en est donc rendu à notre cinquième année de ce plan-là. Et il y aurait lieu de le réviser ou le revoir complètement avec les sous qui sont disponibles auprès du MTQ à ce niveau-là. Le pire, là où on en a besoin, c'est quand on arrive dans... Il faut juste que je retrouve les bons termes pour bien dire les choses.
Le RIRL.
Le RIRL. Donc, le redressement des infrastructures routières locales. Il y a beaucoup d'argent qui est disponible pour ce volet-là. Et contrairement à ce qui était le cas avant, où on avait les municipalités devaient débourser 25% et le MTQ déboursait 75% des coûts des travaux, ils ont bonifié l'offre encore là à 90% en aide financière. Donc, il reste un 10% auprès des municipalités à débourser pour les routes qui ont été jugées prioritaires dans le PIR, justement. Et quand on est dans le cinquième quintile, en vertu de l'indice de qualité, l'indice de développement économique, ça monte à 95%. Donc, il y a vraiment des sous à aller chercher là, il y a vraiment un intérêt là. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la possibilité de refaire ce PIR-là pour, de toute façon, l'année prochaine, il va être échu. Donc, aussi bien en profiter pour aller chercher des sous.
Pascal Binet.
Effectivement, c'est les municipalités qui déposent dans ces programmes-là, c'est assez important là, parce que c'est la différence de faire un projet ou pas de faire un projet. Aujourd'hui, parce que c'est le ministère qui a autorisé, je pense, la députée a annoncé les programmes qui ont été faits il y a 2 ans puis pour lesquels l'argent a été donné. Il y a des municipalités qui ont des montants là, pour faire des réparations. Là. C'est que si on n'a pas de programme adopté par la MRC, bien, on n'a pas accès au pourcentage qui est remboursé. Or, quand tu as du réseau routier local, on se souvient de l'exercice, on avait des grandes cartes, on voulait prioriser nos bouts de territoire qu'on voulait voir apparaître, mais il faut comprendre que ce n'est pas de l'argent à 100% qui vient. Là, la municipalité qui dépose doit payer un pourcentage. Et s'il n'y a pas d'adoption de programme par la MRC, on n'a même pas de remboursement. Fait que c'est assez important là, qu'on en ait un, là, parce que si on n'en avait pas eu, là, nous, on a déposé en vitesse, on avait des projets là, au mois de mai, là, fait qu'on va attendre des réponses, là, mais si on n'avait pas eu de PIR, là, on n'aurait pas eu accès à ces programmes-là. Donc moi, je le propose parce que c'est super important. C'est des outils de développement pour nos milieux.
Autre commentaire?
Jean-François Hamel.
Oui, merci. Merci, M. Vachon. Je vais faire du pouce sur ce que Pascal dit parce que non seulement c'est primordial pour nous, les communautés rurales, mais on se rappelle que si Mme Boucher nous fait état que les données dataient de 2016 déjà et qu'on serait dû pour le faire, je vais amener à l'attention des maires qu'en 2016, en certains cas, l'analyse qui était faite était déjà avec des données désuètes. Donc, nous, les municipalités, on avait à se débattre pour être capable de faire valoir que le plan qui était au PIR ne correspondait pas à la réalité et que c'était un plan d'entretien plus que minimal, Mais 5 ans plus tard, avec les hivers qu'on vient de connaître, le plan minimal ne tient plus la route, mais plus du tout. Alors, ça me fera plaisir qu'on puisse aller de l'avant et peut-être informer nos directions générales aussi, parce qu'on est en train de prévoir les travaux présentement. Avec des argents, est-ce qu'on serait capable, d'après ça, de prendre des sommes dans un programme, les affecter? Parce que si vous me dites qu'on est passé de 75 à 90, ça fait toute une différence. Souvent, c'est peut-être niaiseux ce que je vais dire, mais peut-être que c'est un ponceau de plus qu'on peut changer 200 mètres plus loin qui nous permet de le faire. Et ça nous permet de faire un ouvrage qui est beaucoup plus durable. Alors, s'il faut se pencher sur la pertinence de refaire un PIL, je crois que, à moins que quelqu'un s'y oppose, il faut que l'ensemble de la MRC soit d'accord avec la proposition de M. Binette.
Moi, ce qui m'embête, c'est plus le comment, là. Je vois mal un PIL en Zoom, mais tout est possible. Hein? On utilisera 2 écrans, puis bingo. Mais, ou au téléphone, un PIL au téléphone, bon. Mais en tout cas, on va trouver les moyens. Il est absolument nécessaire, effectivement, d'avoir des rencontres à ce sujet-là. C'est le nerf de la guerre pour les municipalités.
Exactement. Alors, il y a eu des changements, puis ça peut être, après ça, un bel outil à ce niveau-là, parce que dans le premier, puis corrige-moi, Cynthia, là-dessus, si je me trompe, mais c'est qu'il y avait uniquement 25 % du réseau routier qui avait été ausculté pour avoir l'expertise à ce niveau-là, pour l'avoir. Puis dans la nouvelle version du PIL, au lieu d'être un plan sur 5 ans, ça va être maintenant des plans sur 3 ans. Donc, il va y avoir, je dirais, une mise à jour qui va être plus fréquente dans le futur, mais c'est également 100 % du réseau routier qui se doit d'être ausculté. Mais les frais aussi sont assumés au niveau de l'enveloppe du ministère pour couvrir les frais, mais on doit ausculter 100 % du réseau routier. Donc, ça va aussi donner à l'ensemble des municipalités des données sur l'ensemble de leur territoire et non pas sur 25 % du réseau routier le plus utilisé en ce sens-là. Fait que je pense que ça va être un bel outil. Là.
Gaston Nadeau?
Oui, M. Nadeau.
Oui, regarde, nous autres, on a un projet PIL qu'on fait cette année. C'est un projet de 2 millions. On a 1 600 000. Mais on était, là, 4 ans, ça avait été déposé sur le chemin du barrage au Grand Lac-Saint-François en direction vers Thetford. Puis ça avait été déposé il y a 4 ans, puis c'était 90 % qu'on était supposé d'être subventionné, puis l'indice de dévitalisation a changé, on a tombé à 75 %. Ça fait que c'est important que quand ça se présente, là, si c'est 90 % qu'on le fasse, qu'on présente le projet, qu'on le fasse suite, mais nous autres, ça a pris 4 ans avant qu'on soit accepté. Puis ça a changé de pourcentage.
Pascal Binet?
Le problème aussi, là, c'est que depuis 2 ans, là, les libéraux, avec l'austérité, avaient épuisé les fonds. Et que les programmes qui ont été acceptés, là, dont celui de Gaston, là, puis qui vont paraître dans le journal, là, c'est des projets d'il y a 2 ans. Fait que la CAQ a remis de l'argent dans les fonds. Là, ils libèrent les projets qui ont été déposés depuis 2 ans. Là, ils ont remis des fonds, ce que Cynthia parlait, là, de jusqu'à 90 % le 100 millions. Ça, c'est ceux, évidemment, qui sont encore dans des pires, là. Parce qu'il y a les PIL, puis il y a les AIRL, qui sont 2 programmes. Là. Lui, il finance à 50 %. Mais c'est pas grave. Là. Le but, là, c'est d'aller chercher l'argent où se caler. Mais sans plan adopté par la MRC, on ne peut pas adhérer à ça. Fait que la première démarche, M. Vachon, c'est d'adhérer au programme. Il va y avoir des mois qui vont se passer avant que ça soit adopté. Puis quand on va avoir l'argent, il y a un appel d'offres qui est lancé au service d'ingénierie pour faire la préparation de l'étude de nos routes. D'ici là, j'ose espérer que dans quelques mois, la COVID va nous permettre de nous réunir et qu'on n'aura pas besoin de Zoom, là, parce que ben, si on peut se rassembler, parce que techniquement, les travaux, c'est la firme d'ingénierie qui va aller les faire pour ausculter notre territoire. Et après, on pourra prioriser quel est l'état des routes pour les 3 prochaines années qui vont mériter une attention. Et s'il y a des municipalités qui ne veulent pas, parce que ce n'est pas prioritaire, ben, il faut prioriser les routes de notre réseau de la MRC qui sont le plus prioritaires. Parce que si on choisit des routes par municipalité parce qu'on veut être dedans, mais qu'on ne fera pas les travaux pour 3 ans, ça prive les municipalités qui sont prêtes à les faire pour les autres qui sont en état de dégradation, autant pour les ponceaux, les rechargements de gravier, etc. Et cette analyse-là est fort pertinente. Parce que c'est ce qui fait en sorte qu'on a de l'argent qu'on peut aller chercher ou pas.
Merci, M. Binet. Vous avez presque rédigé la résolution, là. Mme Boucher va s'occuper du reste.
D'accord? Oui, Paul.
Vous avez compris le sens, là? C'est correct?
Oui, Paul.
OK, oui. Monsieur Denis Fortier.
Moi, quand c'est le bout, là, quand les ingénieurs ils viennent voir nos routes et qu'ils décident, sans nous en parler, je vais juste donner un exemple. J'ai une route là, qu'on va commencer à faire à peu près dans 15 jours, que l'ancien programme nous donnait 252 000 pour faire cette route-là. Et j'ai fait faire des carottes et on s'est aperçu que le sous-sol il était scrap. Et on a monté, on a bonifié jusqu'à 3 500 000 qu'on vient d'être, qu'on a été accepté. Mais c'est un peu comme Jean-François disait, on est obligé de toujours se battre pour définir toutes ces choses-là. Il n'y aurait pas moyen, je ne sais pas, moi, les ingénieurs, pas juste regarder avec les yeux, là, mais peut-être plus approfondir. Qu'on n'aurait pas les municipalités d'être obligées de se battre. Moi, ça m'a coûté 20 000 prendre une chance d'aller voir le sous-sol pour réussir à faire accepter ça. Puis en plus, avec d'autres ingénieurs, puis c'est monté un dossier là, que ça a coûté plusieurs milliers de dollars. C'est comme jouer à la roulette russe parce que tu ne sais même pas si tu vas être accepté. Puis tu risques de dépenser 50 000 piastres. Puis peut-être pour rien. Là. Fait que là, tu te le fais reprocher par... ta population, que tu as essayé d'être plus fin que les ingénieurs, mais on a été chanceux, on a réussi notre pari. Mais est-ce que ça va toujours d'être comme ça? Je ne sais pas.
Je ne sais pas si ça répond à votre question, monsieur. Le fait maintenant qu'ils vont avoir l'obligation d'ausculter toutes les routes, pas juste des morceaux, normalement, là, on devrait avoir un bien meilleur portrait. Alors, s'il y a une bonification, elle devrait être là, mais je trouve votre question pertinente et on va la poser. Mais à mon avis, l'auscultation devrait y répondre. Posez la question.
Merci.
Oui, M. Vachon, si vous me permettez, parce que je vais vous dire que le cas de mon confrère, M. Fortier, c'est loin d'être un cas isolé.
Excusez-moi, il faut que je vous nomme, on est enregistré. Ou nommez-vous, s'il vous plaît.
Jean-François Hamel, M. Vachon. Je veux juste renchérir en disant que quand on parle d'auscultation, ça va peut-être être important de voir ce que ça inclut, l'auscultation. Parce que ce que M. Fortier l'a dit, je l'ai vécu en refaisant la route 216. Et il a fallu que je dise aux ingénieurs, ce serait peut-être intéressant d'aller voir en dessous, c'est un vieux chemin. Et c'est tout juste, si je ne me suis pas fait poser comme question, qu'est-ce qui vous prouve que le chemin Craig est si vieux que ça? Alors, j'imagine que quelque part, il va falloir qu'on se fasse une idée de c'est quoi ça veut dire, auscultation. Moi, je pense que le carottage en zone friable doit être essentiel parce qu'il y a des routes qui reposent encore sur des fonds de terre noire dans nos municipalités. Et si on ne va pas chercher quoi que ce soit, bien là, c'est sûr qu'on fait de l'ouvrage qui ne durera pas. Moi, je pense que je vous rejoins à 100 %, M. Vachon, mais il faut vraiment porter une attention à savoir qu'est-ce que sera l'auscultation parce que là, ce qu'on comprend 3 ans plus tard, c'est que la même firme d'ingénieurs s'est payé 2 fois. Une fois avec le PIL, l'argent qui était sur place pour être capable de faire l'étude, et une deuxième fois parce que nous, on leur demandait de venir faire l'auscultation parce qu'on n'était pas d'accord avec les résultats qui amenaient de leurs propres analyses. C'est là où je me suis tué, mais peut-être pour la dernière fois, parce que sinon, on n'en ressortira pas. C'est des délais, c'est des temps, c'est des routes carrossables qui sont importantes entre chacune de nos municipalités qui ne sont pas réparées. Alors, je pense que ça va être important de voir ce que ça inclut, l'offre de services, si on va plus loin. Merci.
Vous avez raison, M. Hamel. C'est pour ça qu'on ne se contentera pas juste de dire ben l'auscultation, c'est un plus, hein, mais de leur demander qu'est-ce que ça signifie exactement, pour bien comprendre. Je me souviens que la dernière fois qu'on a travaillé sur ce comité-là, sans dire que ça a été acrimonieux, c'était, ça n'a pas été facile. Là. Alors, on va essayer là, de poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes réponses. D'autres questions, commentaires, s'il vous plaît?
Gaston Nadeau.
Oui, M. Nadeau.
Oui, quand vous parlez d'auscultation, là, des routes, de toutes les routes, là, ça veut-tu dire que chaque municipalité va falloir qu'elle engage une firme d'ingénieurs pour faire vérifier toutes ces routes avant de présenter un projet? Ça va coûter une fortune?
Non, c'est que normalement, il y a une firme, en tout cas, c'est ici, je prends le modèle, du modèle précédent. Je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'on me dit que mon Internet est instable. Une chance qu'on
peut... Oui, vous entendez.
Mais, OK. On nous dit que... C'est-à-dire que précédemment, c'était une firme qui était dédiée et qui avait déjà déterminé, mettons, quelle route sur lequel ils devaient travailler, et c'était la même firme. Les municipalités n'avaient pas à l'engager. Là. C'était cette firme-là qui allait et qui faisait le travail dans l'ensemble du territoire.
Parce que l'ancien PIL, c'était des routes à vocation, mettons, intermunicipalité, c'est ça qui était priorisé. Exemple comme nous autres, le chemin du barrage, c'est une route qui relie Telford avec Disraeli. C'est pour ça que ça avait été priorisé.
Oui. Mais ça, c'était l'ancien modèle. On ne sait pas, ce que ça va être le prochain.
Oui.
Mais on ne sait pas ce que ça va être l'an prochain. Puis avec notre comité qui va se former, on va le savoir, on va travailler avec eux autres. Mais déjà, on a l'expérience, on va avoir des questions plus pertinentes à leur poser.
À ce niveau-là, le travail qu'on pourra faire avec Cimetière, c'est vraiment de voir, parce que 100% des frais d'auscultation sont admissibles au niveau de la subvention, ce qui sera à définir pour clarifier aussi le mandat qu'on donnera à la firme d'ingénierie. Si on fera la validation au niveau de l'ensemble des travaux qui sont admissibles à l'intérieur de l'auscultation pour le remboursement, puis on s'adaptera comme ça pour vraiment avoir un mandat le plus complet possible, en sachant que c'est remboursé à 100% également.
Écoutez, je constate qu'il y a une détérioration de nos communications. Je vois qu'il y a des cellules orageuses. Là, la pluie a commencé. Ça se peut je trouve que... On s'entend de moins en moins bien, mais enfin.
Vous pouvez fermer juste votre vidéo, M. Vachon. Ça va peut-être aider.
Stop vidéo?
Oui.
Seigneur.
Ça va peut-être aller un petit peu mieux comme ça.
Je pense qu'il y avait Cynthia aussi, je pense, qui avait demandé la parole. Je ne sais pas si M. Vachon l'avait vu, là.
Qui a demandé la parole?
Madame Boucher.
Madame Boucher?
Oui, bien, juste pour compléter là, par rapport au PIL, là, c'est qu'il y a effectivement des sous pour faire le PIL. Ça peut aller jusqu'à 100% des dépenses admissibles, dont l'auscultation, dont l'engagement d'une firme pour faire les travaux, tout ça. Et il y a même aussi de l'aide pour le démarrage, donc pour monter le projet, de quoi il y aura l'air finalement. On a jusqu'à 50 000 également qui est attitré pour la MRC des Appalaches à ce niveau-là. Au niveau du PIL en tant que tel, c'est sûr qu'il y aura toujours une priorisation qui sera à faire avec une liste de critères, donc un peu comme ça a été fait avec le premier PIL. Mais la différence, c'est qu'au lieu de seulement ausculter ce 20-25%-là de routes priorisées, on va vraiment ausculter 100% des routes. Donc, quand les municipalités voudront aller chercher des programmes de financement autres que le redressement des infrastructures routières locales, vous aurez déjà une auscultation de la route qui aura été faite. Donc, vous n'aurez pas besoin de payer, je pense, des ingénieurs supplémentaires pour refaire une auscultation. Elle aura déjà été faite à ce niveau-là. Et si je peux me permettre aussi, moi, ce que je voulais aussi recommander, c'est que le conseil d'administration soit mandaté pour, dans un premier temps, pour aider à déterminer et à valider les différentes informations qui doivent être contenues dans la demande. C'est quand même une demande assez grande avec plusieurs informations à compléter. Et en même temps, commencer à réfléchir, est-ce qu'on fait ça à l'interne, en régie interne, ou est-ce qu'on donne le contrat à une firme comme à l'époque, là, le PIL, on avait fait donner ça à une firme d'ingénieurs. Donc, ça pourrait être le conseil d'administration qui se penchera sur ce volet-là.
Louis, je vais te laisser continuer parce que pour l'instant, moi, tous mes écrans sont gelés. Alors, je vois les gens, mais personne ne bouge. Là. Je vous trouve absolument remarquable, mais tous mes écrans sont gelés. Alors, je ne peux pas voir qu'ils lèvent la main et je ne vois plus rien là. Alors, je te laisse continuer l'ordre du jour, Louis.
Il n'y a pas de problème. Il y avait Jean-François Hamel qui avait un point, je pense, à ajouter.
Ben, c'est plutôt une question pour Cynthia. Est-ce qu'à l'interne, on aurait présentement, peut-être juste un préavis, là, je suis d'accord que le conseil d'administration se pose la question si on le fait à l'interne ou à l'externe, mais est-ce qu'on aurait les ressources présentement à l'interne? C'est le premier volet de ma question. Puis le deuxième, est-ce que le 100% du 50 000 pourrait être affecté à une ressource à l'interne dans nos murs à la MRC?
Bon, premier volet, est-ce que quelqu'un à l'interne, on peut, comme les aménagistes, on peut répondre à certaines questions qui sont demandées? Mais c'est sûr qu'il y a une bonne partie qui est plus qui doit être plus poussée. Donc, il y a des informations vraiment plus poussées qui doivent être allées chercher. Il faut estimer le nombre de ponceaux qu'il y a, le nombre de routes pavées, non pavées. Il y a plusieurs informations quand même à aller chercher. À la limite, c'est le genre de choses qu'on peut se promener. Là, on est capable de voir si c'est un ponceau ou si c'est pavé ou pas. Mais c'est sûr que ça demande du temps au niveau de la MRC. Lors du premier PIL, on avait fait affaire avec une consultante qui était venue nous aider là-dedans pour préparer tout ce formulaire-là. Et pour le deuxième volet de la question, pouvez-vous répéter la question, M. Hamel, s'il vous plaît?
Oui, c'est à savoir si, par exemple, on est admissible et qu'on avait la ressource à l'interne, est-ce que le 50 000 peut être affecté à une ressource à l'interne ou bien il faut absolument que ce soit une ressource d'ingénierie externe à la MRC?
Le 50 000 pour l'aide au démarrage, il peut être affecté pour une personne à l'interne, pour une personne à l'externe ou une combinaison des deux.
Parfait. Et vous avez juste, si vous permettez, soulevé peut-être une troisième question. Il y a peut-être une façon aussi quand même assez simple si jamais la MRC le prenait, et je pense que ce serait souhaitable, à moins qu'un maire ne soit pas d'accord, ce serait de venir voir nos inspecteurs en voirie, les gens qui travaillent déjà sur ça, pour tout de suite cibler ce qui pourrait être prioritaire. Donc, peut-être que l'ouvrage de priorisation peut se faire en concomitance avec l'investigation sommaire si jamais la MRC décidait de le prendre à l'interne. Mais pour le reste, je laisserai le conseil d'administration nous amener une proposition au conseil des maires. Je vous remercie, Mme Boucher.
Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre à ce niveau-là avec l'ordre du jour. Fait qu'on serait rendu au point 8.3.1 au niveau du programme d'aménagement durable des forêts, le PADF.
Oui, donc c'est Cynthia qui continue, Cynthia Boucher. Donc, on a une résolution à adopter pour adopter un bilan 2018-2019 amendé et adopter le budget 2019-2020 également. Donc, dans un premier temps, il y avait un bilan qui avait été fait et qui avait été complété au 31 mars 2019. Sauf qu'il y a certains projets qui n'ont pas été terminés avant le 31 mars 2019. Bien qu'il y a des montants qui avaient été rattachés à 2018-2019 qui ont été retirés du bilan 2018-2019 et ont été ajoutés au bilan 2019-2020. Donc, c'est pour ça qu'il faut, dans la résolution, dire qu'on accepte également le bilan de la planification annuelle 2018-2019 amendé et en même temps le bilan de la planification annuelle 2019-2020 pour le plan. Le plan d'aménagement durable des forêts, qui est géré par la MRC de Montmagny.
À ce niveau-là, voulais-tu lire la résolution, Cynthia?
Oui, je vous lis la résolution. Je vais aller la chercher. C'est trop bien long. Donc, attendu que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a mis en place le programme d'aménagement durable des forêts, PADF, afin de contribuer au processus d'élaboration et de consultation des plans d'aménagement forestier intégrés, les PAFI, et de permettre la réalisation d'interventions ciblées, attendu qu'une entente de délégation a été signée par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ainsi que par l'ensemble des MRC de la région de la Chaudière-Appalaches qui désiraient se prévaloir du programme, et que cette entente mandatait la MRC de Montmagny comme MRC délégataire désignée pour la coordination du programme dans la région, attendu que la planification annuelle 2019-2020 a été élaborée par la MRC de Montmagny, avec la participation de l'ensemble des MRC de la région de la Chaudière-Appalaches qui désiraient se prévaloir du programme, puis déposé au MFFP par la MRC de Montmagny afin d'obtenir un premier versement annuel dans le cadre du PADF. Attendu que le dernier versement annuel du MFFP dans le cadre du PADF est conditionnel à la préparation d'un registre annuel de projet ainsi que d'un bilan de la planification annuelle par la MRC de Montmagny, par l'approbation de ce registre et de ce bilan par l'ensemble des MRC de la région de la Chaudière-Appalaches qui désiraient se prévaloir du programme et par le dépôt de ces documents au MFFP, attendu qu'il a été nécessaire d'apporter des modifications au registre annuel des projets 2018-2019 et au bilan de la planification annuelle 2018-2019 pour assurer la cohérence de la reddition de compte 2019-2020 avec celle de 2018-2019. Attendu que le registre annuel des projets 2019-2020, le bilan de la planification annuelle 2019-2020, le registre annuel des projets 2018-2019 amendés et le bilan de la planification annuelle 2018-2019 amendés ont été déposés au Conseil des maires de la MRC des Appalaches le 10 juin 2020. En conséquence, il est proposé par et résolu unanimement que la MRC des Appalaches approuve le contenu du registre annuel des projets 2019-2020, du bilan de la planification annuelle 2019-2020, du registre annuel des projets 2018-2019 amendés et du bilan de la planification annuelle 2018-2019 amendés, préparé dans le cadre de la deuxième année du PADF 2018-2021.
Donc, ça prendrait une proposition. Jacinthe?
En tout cas, non seulement mes écrans sont gelés, mais en plus de ça, je perds à peu près la moitié des... J'espère qu'il va y avoir un citoyen ou un fonctionnaire qui va s'appeler l'enregistrement de ça puis qui va lutter. J'espère qu'il va y avoir quelqu'un qui va le faire.
On va partager.
On viendra nous dire après que Internet est... C'est ça. OK, on continue.
Donc, on serait rendu au point 8.3.2, qui est le suivi du règlement sur le contrôle de l'abattage d'arbres en forêt privée. Je pense que c'est un point d'information, c'est ça?
Oui, exactement. Donc, c'est juste pour vous faire un petit suivi des certificats d'autorisation qui ont été émis dans le cadre de ce règlement-là sur le contrôle de l'abattage d'arbres en forêt privée. Donc, vous avez un tableau. On a émis des permis dans quelques-unes des municipalités et dans le fond, celle qui en a eu le plus pour le moment, jusqu'à ce jour, c'est Adstock avec 6 permis émis, Irlande avec 6 permis émis. Ensuite, j'ai Saint-Julien avec 5 permis émis, Sacré-Cœur de Jésus avec 4 permis émis, Kenner's Mill, Saint-Adrien d'Irlande et Saint-Fortuna ont chacun 3 permis émis pour l'abattage d'arbres. J'ai ensuite Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Joseph-de-Coleraine qui ont eu 2 permis émis à ce jour. Et j'ai Sainte-Clotilde-de-Beauce, Sainte-Praxède, Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestone et Thetford Mines qui ont eu un permis émis à ce jour pour le règlement sur le contrôle de l'abattage d'arbres en forêt privée. Donc, on en a déjà 38 d'émis à ce jour et j'en ai encore quelques-uns qui sont sur mon bureau en attente. Et ce que j'ai commencé à faire également, c'est un petit point d'information, c'est que chaque fois qu'il y a des permis qui sont émis, j'envoie les informations aux directions générales des municipalités pour qu'elles soient au courant qu'il y a eu des permis. Parce que souvent, les citoyens vont appeler directement la municipalité pour savoir s'il y a eu un permis émis, parce que là, il y a de l'abattage d'armes à quelque part, pas très loin de chez eux. Donc, déjà que les municipalités soient au courant, bien, ils peuvent tout de suite répondre aux citoyens, puis les municipalités sont très heureuses de tout ça. Là.
Il y avait Pascal qui avait un point.
Ouais, j'aurais quelque chose aussi, Louis.
Oui.
Cynthia, c'est pour comprendre, là. Quand tu dis un permis et demi, c'est quoi la demi d'un permis?
Permis émis.
Ah!
Émis.
Dossier clos pour M. Binet. M. Vachon.
Il y a ces moments qu'on fait bien les enregistrer. Il y a un élément, Cynthia, je ne sais pas si on en a parlé, si on l'a diffusé, mais c'est les fameuses bandes forestières qu'on obligeait auparavant, puis que maintenant, c'est plus nécessaire d'en avoir. Alors, je ne sais pas ce que ça en est, là.
En fait, on n'a pas encore modifié le règlement sur l'abattage d'arbres pour retirer cette disposition-là du règlement. Oui. Je suis en train de travailler sur ce projet-là. Oui.
Avant, par exemple, on en avait déjà discuté là, de ça, mais on avait dit aussi qu'on consulterait les milieux là, parce qu'il y a des bandes de protection dans notamment les communautés riveraines, puis il y a des... Fait qu'avant de le faire unilatéralement, là, c'est juste peut-être qu'on consulte les municipalités sur leur territoire avant de le faire sans unilatéralement à la MRC. Là. Je demande juste qu'on soit consulté dans nos milieux avant.
Oui.
J'aimerais, Cynthia Boucher, j'aimerais ajouter un point par rapport aux fils électriques, là, aux lignes d'Hydro-Québec, les lignes de transport d'électricité. C'est que dans notre règlement, on permet quand même qu'il y ait un dégagement pour protéger les services d'utilité publique. Donc, je ne sais pas si vous êtes promené dernièrement sur le territoire, mais il y a quand même plusieurs secteurs où, le long des lignes électriques, il y a eu un dégagement de 3-4 mètres peut-être, qui a été dégagé de forêt. Donc, il y a déjà un espèce de dégagement qui a été fait. Et ça, on n'a pas besoin de CA à la MRC, là, de certificat d'autorisation en lien avec le règlement, parce qu'on le permet déjà sans aller chercher un certificat d'autorisation à la MRC.
Excellent. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer avec le prochain point, qui est le point 8.4, qui est l'appui à la résolution de Sacré-Cœur de Jésus en lien avec le MTQ. Je ne sais pas, Cynthia, si tu peux juste résumer peut-être la résolution à ce niveau-là.
Oui, en fait, Sacré-Cœur de Jésus avait fait parvenir une résolution parce que, dans le fond, on a le ministère des Transports, justement, avec les différents programmes d'amélioration de la voirie locale, d'aide à la voirie locale, où remet un chèque aux municipalités, sauf qu'ils retiennent le chèque, ils disent « vous allez recevoir un montant de X », mais retiennent le chèque tant que, je veux juste le dire comme
les états financiers.
Oui, c'est ça. Le rapport financier n'est pas déposé au ministère des Affaires municipales. Donc, tant qu'il n'est pas déposé, le MTQ dit « voici l'argent, mais je la retiens tant que vous n'aurez pas déposé ». Dans le contexte de la COVID-19, tous ces délais-là ont été retardés à 64 jours après le décret d'état d'urgence. Donc, les municipalités savent qu'ils ont de l'argent qu'ils vont recevoir, mais comme leurs états financiers ne sont pas déposés pour plein de raisons, ne peuvent pas recevoir cet argent-là pour débuter les travaux de voirie locale. Donc, dans le fond, c'est peut-être plus un point d'information qu'on a reçu de la municipalité de Sacré-Cœur de Jésus dans ce cas-ci, là, qui a demandé, dans le fond, au ministère des Transports de pas retenir finalement le chèque, même si les états financiers n'ont pas été déposés au même âge. Là.
Est-ce qu'on a eu une réponse?
J'aimerais demander à Guy, peut-être.
Guy, est-ce qu'on a eu une réponse?
Non, comme j'ai dit, on n'a pas eu de réponse encore. Même nous autres, dans notre demande, ce qu'on avait dit, c'est au moins de 100 émettre 100 % au moins émettre 50 % du chèque, puis l'autre 50 % ça ira lorsque les états financiers sont déposés, parce que sinon, ça nous amène des frais d'intérêt inutiles là, en cours d'année pour nos projets de route. Mais non, je n'ai pas de réponse.
Merci. Alors, une proposition, s'il vous plaît, pour la résolution, l'appui à la résolution. Monsieur Hamel?
Stéphane Laprise.
Stéphane Laprise, OK.
Super. Fait que le prochain point, qui était le point 8.5, qui était le bon coût des municipalités, je pense que ça avait un point d'information là-dessus, Cynthia, puis on pourra continuer après ça avec Monsieur Vachon, avec les capsules.
Oui, dans le fond, on a reçu une belle nouvelle de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Beauce qui participe à une démarche d'accompagnement urbanistique avec Vivre en ville afin de l'aider à mieux planifier son périmètre urbain en lien avec sa politique famille et aînée. Fait qu'on tenait à souligner ces bons coups-là des municipalités, puis en même temps, on vous pose un peu la question, est-ce que vous avez d'autres bons coups comme ça que vous aimeriez partager là, avec l'ensemble du conseil de la MRC?
Sinon, il y avait M. Barry.
Je peux y aller peut-être juste avec un bon coup, je trouve, qui est assez récent pour East Broughton. C'est qu'on a mis en place là, les bacs de compostage qui fonctionnent très bien, puis que le tonnage est plus élevé, comme c'est là que la moyenne là, pour notre genre de village, qu'on pourrait dire, là, en termes de quantité d'habitants. Fait que, on en est bien fiers, mais c'est un petit projet mais pour lequel c'est un bon coup. Mm-hmm.
Monsieur Hamel?
Oui, Ghislain. Nous, on avait eu une poursuite en dommages exemplaires de la part du ministère de l'Environnement pour un événement dont on n'était pas responsable, mais vraiment pas du tout. Mais il a fallu quand même se servir d'un avocat pour examiner la cause et finalement... le ministère de l'Environnement a cessé sa poursuite. Donc, je trouve que c'est un bon coup. Il ne faut pas se laisser avoir par le ministère de l'Environnement qui, arbitrairement, décide souvent des choses puis que les municipalités payent. Je pense que ça vaut la peine de se défendre.
Merci. Madame Patry.
Oui, nous, paroisse de Disraeli, on a installé, et c'est en fonction depuis peut-être une semaine, un sachet de lavage volontaire, obligatoire, pour les utilisateurs du lac de l'Est. Alors, panneau indiquant là, la problématique, et on essaie que les citoyens, les visiteurs soient conscientisés à la qualité de l'eau. On a des problèmes partout au lac de l'Est aussi, alors on est fiers de cette chose qu'on a mis en place.
Merci. Monsieur Binette.
Peut-être deux choses. Bien, concernant la consommation d'eau potable dans le secteur Saint-Méthode, suite au rapport que notre service d'ingénierie a fait, on a pu extirper les données suite à l'installation des compteurs d'eau dans notre municipalité. La norme de consommation en moyenne est située pour le par personne par jour là, à 300 litres. Puis on est en deçà de la norme qui est recommandée là, à 235. C'est suite aux efforts justement de notre voirie des travaux publics à colmater les fuites depuis 5 ans, mais aussi la consommation plus responsable là, dans le secteur du réseau de conduite desservi par le village de Saint-Méthode. Donc, quand même un bon coup, surtout que ça avait été quand même décrié l'installation des compteurs d'eau à l'époque, là, en 2013. Là. Donc, c'est quand même un élément. Puis, je dirais, notre programmation en loisirs aussi là, est très appréciée là, à travers les différents événements du COVID. Là. On initie beaucoup de nouvelles façons de faire, que ce soit virtuel ou... c'est peut-être deux éléments que je peux souligner ce soir.
Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des commentaires? Sinon, je laisserais peut-être la parole à ce moment-là à M. Vachon.
Le premier commentaire, c'est de voir jusqu'à quel point on ignore ce qui se passe dans nos municipalités voisines. Ce petit tour de table-là, là, c'est très bon. Tu sais, chacun y va ses bons coups, mais on ne le sait même pas. L'autre affaire aussi, c'est un petit peu dans ce sens-là. Ce n'est pas les bons coups des municipalités, mais l'idée, ce serait plutôt de faire connaître au public, au grand public, là, via les réseaux sociaux, par des petites vidéos d'une minute et moins, les projets qu'on est en train de faire, qui sont en train de se réaliser, peu importe le partenaire, mais de montrer que notre MRC est dynamique, que ce qui se passe dans nos 19 municipalités est important, puis aussi de mettre également un peu de pression sur nos partenaires pour que certains projets qui, à l'heure actuelle, sont en train de se réaliser, ne se réalisent pas. Alors, l'idée, ce serait de faire connaître tous les projets qui s'en viennent, puis de créer un peu d'espoir, un peu d'enthousiasme sur notre développement économique et social de notre MRC.
Excellent, merci. Donc, s'il n'y avait pas d'autres points ou d'autres commentaires, on va passer au prochain point, qui est le point au niveau du point 9, cours d'eau et environnement. Il y avait le point 9.1.
Excuse, Louis, je voudrais pas, c'est pas un commentaire, là. Je voudrais vraiment qu'on irait dans un projet comme ça, puis qu'on aille de l'avant. Parce excellent. Que sans ça, on va se ramasser à la prochaine réunion du Conseil des maires, puis on va en reparler encore.
Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça, avec la proposition?
Oui, je le propose. Oui.
Super. Donc, le point 9.1 qui était le financement programme de subvention amélioration des cours d'eau. Il y avait le projet au niveau du point 9.1.1 qui est l'arrachage manuel sélectif des plantes exotiques envahissantes au lac Elmer par l'Association des résidents du lac Elmer. Je laisserai la parole à Mme Cynthia Boucher.
Oui, donc on a eu une demande en lien avec notre programme de subvention pour l'amélioration des cours d'eau qui venait de l'Association des résidents du lac Elmer qui ont fait faire une étude par rappel autour de la marina et de chez Binette Marine, où il y a des où ils ont retracé, ont retracé des espèces exotiques envahissantes, pas en grande quantité, mais déjà il y a des espèces exotiques envahissantes. Et dans le fond, cette association-là souhaite faire l'arrachage manuel de ces plantes exotiques envahissantes-là pour éviter la propagation trop grande et la perte de contrôle finalement. Donc, le coût du projet pour ce projet-là s'élève à 6 000 $ et ils ont demandé une subvention de 3 000 $ au programme et le projet respectait l'ensemble des critères d'analyse du programme. Donc, on propose ou on recommande au Conseil des maires d'accepter ce projet-là.
Monsieur Jean-François Hamel. Donc, on serait au point 9.2, qui est la délégation de la MRC au responsable du volet génie et environnement de la ville de Thetford Mines pour signer la demande de certificat d'autorisation pour des travaux d'aménagement de la rive dans la rivière Bécancourt au parc Saint-Noël. Madame Boucher.
C'est encore moi. Alors, la ville de Thetford souhaite aménager les rives de la rivière Bécancourt au parc Saint-Noël en y créant des sentiers pédestres. Il va y avoir un quai et des passerelles qui vont également être accessibles aux personnes en chaise roulante et il y aura également un abri. Ces aménagements-là sont prévus être faits dans la rive et comme ils sont prévus être faits dans la rive, on doit donc acheminer une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et des Changements climatiques. Donc, comme la Ville a tous les effectifs pour pouvoir acheminer une demande directement au ministère de l'Environnement, et ensuite effectuer les travaux, elle demande à la MRC de lui déléguer sa compétence pour ce dossier-là. En vertu de l'article 108 de la loi sur les compétences municipales, la MRC peut, par entente avec une municipalité locale de son territoire, lui confier justement la gestion de ces travaux-là. Et le lot sur lequel s'effectueront les travaux, c'est le 6 252 407, donc celui du parc Saint-Noël. Et juste un petit rappel, en mai dernier, on a également délégué la compétence à la ville de Thetford pour des travaux de réfection de murets le long de la rivière Bécancourt. Ce n'est pas les mêmes endroits non plus.
Monsieur Barry. Donc, le point 9.3 qui était la demande financière de Grosbec. En fait, je vais y aller avec à ce niveau-là avec la lecture de la résolution qui est là. Puis si vous avez des questions, des précisions à avoir à ce niveau-là, gênez-vous pas. Attendu que le groupe de concertation du bassin versant de la zone Bécancourt-Grosbec a développé un projet intitulé « Plan de contrôle des sédiments amiantés de la haute Bécancourt secteur Thetford Mines » en partenariat avec les acteurs du milieu et sollicite la MRC des Appalaches pour une contribution en nature de 4 000 Attendu que la MRC des Appalaches a déjà accordé une aide financière de 3 000 $ au groupe de concertation du bassin versant de la zone Bécancourt-Grosbec pour la phase 3 du projet plan de contrôle des sédiments amiantés de l'autre Bécancourt secteur Thetford Mines lors du conseil du 15 janvier 2020. Il est proposé que la MRC des Appalaches octroie une contribution en nature de 4 000 $ à Grosbec pour le projet plan de contrôle des sédiments amiantés de l'autre Bécancourt secteur Thetford Mines, contribution qui serait répartie sur les années financières 2020, 2021 et 2022. En fait, c'est une bonification qui nous demande suite à une révision du montage financier du projet pour lequel on avait accepté de bonifier avec une contribution nature de 4 000 mais un 4 000 qui est réparti sur 3 ans. Donc, la somme, c'est vraiment de la contribution à ce niveau-là, beaucoup avec les professionnels ici au niveau de la MRC en accompagnement ou en prêt de locaux, ce qui est un montant raisonnable comme ça, un 4 000 réparti sur 3 ans. Fait qu'on on propose l'octroi du 4 000 en nature à ce niveau-là. Ça prendrait. Madame Patry. On serait rendu au point 10, le point 10.1 qui est la reddition de compte au niveau du FDT pour l'année financière 2019-2020. Somme toute, c'est vraiment le document qui est à déposer auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On se rappelle qu'on terminait l'entente qu'on avait pour les 5 dernières années comme ça avec le FDT. Donc, au niveau du rapport, juste pour vous en faire un petit peu le topo où est-ce qu'on en est rendu, sur les 5 dernières années au niveau de l'enveloppe totale du FDT qu'on avait reçu. On avait reçu un montant de 4 624 984,84. Et actuellement, l'ensemble des engagements qu'on a avec les projets en cours, on est à 4 623 854. Donc, on a $1 000 de différence comme ça avec l'engagement. Il y a toujours encore là des... c'est pour ça qu'on parle d'engagement partiel. C'est qu'il y a il y a plusieurs projets dans les dernières années qui ne sont pas encore terminés. Donc, il pourrait y avoir des sommes supplémentaires qui vont se libérer. On a déjà certains projets en cours qu'on sait qui ne prendront pas l'ensemble de l'enveloppe. Toutefois, avec la signature du nouveau FRR volet 2, mais on a eu la confirmation à la fin mars dernier, lors de la signature de l'entente, que les fonds, les résiduels qui resteront de cette enveloppe-là vont être transférés et disponibles pour la nouvelle entente dans le cadre du FRR volet 2. Donc, ce qui n'aura pas été engagé dans les projets qui ne se termineront pas, bien, on ne le perdra pas, il va seulement être transigé dans la nouvelle enveloppe. Donc, à ce niveau-là, vous avez reçu le document au niveau du rapport. Si vous n'avez pas de questions à ce niveau-là, on pourrait procéder à la proposition pour l'adoption du rapport. Madame Drouin. Fait qu'en fait, ça, c'était la reddition de compte, c'était le document Excel. Puis il y avait l'autre document pour le point 10.2 qui est le rapport annuel, en fait, qui est le rapport qu'on rend public sur le site Internet qu'on doit diffuser. En fait, le rapport, somme toute, fait la liste de l'ensemble des projets qui ont été financés et appuyés par la MRC pour l'année 2019, mais également quelle distribution de l'enveloppe pour ce qu'on avait pour 2019-2020 avait été faite. Soit tant le support à l'aménagement du territoire avec les agents de développement en milieu, au niveau des agents de développement, mais également au niveau tout le support au niveau de la SDE et le volet soutien aux projets structurants. Fait que ça fait le bilan de l'ensemble de la distribution du fonds qui avait été faite et également un rapport comme ça adopté par le Conseil. Donc, s'il n'y avait pas de questions à ce niveau-là pour le rapport, je prendrais une proposition. Monsieur Binet. Donc, on en serait rendu aux affaires nouvelles au point 11. J'avais ajouté un point suite à certains commentaires à ce niveau-là pour le point 11.1, qui était le projet de loi 61. Je l'ai mis comme point de discussion rapidement si certains d'entre vous, en fait, avaient soit des commentaires à partager ou à nous informer. On mentionnait quand même que c'est intéressant de voir également dans les projets qui en faisaient partie, que ce soit au niveau du train, l'urgence au niveau de la ville de Thetford, mais également au niveau du projet de la maison des aînés. Au moins, c'était des projets quand même qui étaient déjà, si on parle de l'urgence, qui étaient dans les cartons au moins depuis 2017. Au moins, c'est intéressant de voir qu'ils sont considérés dans le cadre de ce projet de loi-là comme ça, si ça peut au moins avancer avec ces travaux-là. Fait que je ne sais pas, je laisserai peut-être M. Vachon d'entrée de jeu si vous avez des commentaires à ce niveau-là. Puis après ça, on pourrait faire un tour de table rapide à ce niveau-là.
On est membre de la Chambre de commerce et la Chambre de commerce nous a invité ses membres à se prononcer sur le projet de loi 61. Cependant, dans ça, il n'y avait pas juste les projets annoncés dans la région. Il y avait également la façon de faire là, du gouvernement. Et ça, je me disais, on n'ira pas se mêler de ça là, dans ce sens-là. C'est le rôle des oppositions qui sont en train de le jouer et cette partie-là politique est en train de se faire. Moi, ce qui me concernait, là, c'était l'annonce des projets, mais je n'avais pas de commentaires plus précis que ça. Tant mieux, il faut qu'ils se réalisent. On a besoin d'annonces dans notre MRC le plus vite possible.
Ouais. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des points aux affaires nouvelles à ajouter? Sinon, on pourra procéder comme ça la période de questions. Oui, M. Fortier?
Moi, j'ai un petit problème dans une rivière qui c'est un cours d'eau qui se jette dans la Bustrode. On avait déjà envoyé des photos à la MRC à l'époque. Il n'y a rien qui se produit comme ça là. Puis, cette année, il y a encore 15 pieds de terrain du monsieur. Quand je dis 15 pieds, je pèse vraiment sous mes mots. Je n'oublie pas un pouce. Là. c'est une plantation de sapins épinettes qui tombe dans la rivière. Le monsieur est obligé de traîner ça, sortir ça de là. C'est quoi qu'on peut faire, là? Jusqu'à où qu'on peut aller? On va attendre que ça scelle la maison qui tombe, parce que là, il n'y aura plus de terrain tantôt. Là. Ça finit plus, là. On a déjà... les gens de Victoriaville ont déjà descendu. Je ne me rappelle pas quelle association. Peut-être que M. Hamel peut m'éclairer là-dessus, il est au haut sur les cours d'eau. Mais on ne veut pas que le stock descende à Victoriaville dans le réservoir Baudette. Mais nous autres, dans la tête, on est dans la tête. Puis n'importe quoi qui peut tomber dans la rivière, neige cadette, il n'y a pas personne qui lève la main, il n'y a pas personne qui... On ne sait pas quoi faire, là. Le monsieur est découragé, lui aussi, puis on a comme les mains attachées, puis je ne sais pas qui peut faire de quoi, là.
À ce niveau-là, en toute honnêteté, ce n'était pas un dossier pour lequel j'étais informé à ce niveau-là. Fait que si c'est possible, même avec le résident directement, de nous mettre en contact, que ce soit avec Cynthia ou avec Caroline, qui pourront donner suite au dossier. Fait que si jamais on pourra entrer en contact avec soit avec vous ou la municipalité pour au moins avoir les coordonnées pour vraiment réactiver le dossier à ce niveau-là. Là.
Bien, je te remercie, Louis, parce que c'est vrai que vous n'étiez pas là dans ces moments-là. Je suis content d'apprendre qu'au moins vous allez jeter un coup d'œil là-dessus. Là.
Non, ben il n'y a pas de problème, c'est ça. Puis il y a eu des changements de personnel, même au niveau des avec Rémi Fluet, avec René, avec Caroline. Fait que c'est sûr que si c'est toujours bon de réactiver les dossiers, mais on s'occupera de faire le suivi à ce niveau-là.
Merci.
Hein, donc, s'il n'y avait pas M. Hamel, Jean-François Hamel. Oh, on ne vous entend pas.
On ne t'entend pas, Jean-François. Non, on ne t'entend toujours pas. Pas de communication.
Est-ce que vous m'entendez maintenant?
Oui, on entend.
Parfait, désolé. Vous nous avez interpellé, M. Vachon, sur le projet de loi 61 pour les annonces. Je comprends, puis je reconnais là votre flair politique de ne pas aller se mêler des annonces. Par contre, vous dites que c'est le travail des oppositions de faire le travail de questionnement qui est en train de se faire sur l'adoption ou non du projet de loi 61. Par contre, il faut quand même reconnaître que le côté législatif vient de réouvrir avec l'Assemblée nationale. Moi, ma question en tant que maire, que quelqu'un qui connaît bien la démocratie, je me demande si on va attendre encore plusieurs prolongations de la santé publique avant de lever la main et de quand même dénoncer le fait que le côté législatif et le côté judiciaire présentement tournent au ralenti. Et ce qu'on nous demande de faire, c'est deux choses. Soit d'intervenir et se placer en porte-à-faux de la relance prévue, ou bien de ne pas intervenir puis jouer une espèce de jeu de complaisance avec l'exécutif. Parce que là, il faut quand même se rappeler que de gouverner par décret aussi longtemps, ça ne s'est jamais vu. Et nous sommes quand même l'instance représentative démocratique de notre MRC. Et quel signal on envoie à notre député? Quel signal on envoie au cabinet du premier ministre si on continue juste à ne pas décrier le fait qu'on soit ce soir en réunion Zoom, alors que je ne sais toujours pas si le 12e prolongation de décret pour la santé publique a été mis ou non. Je ne voudrais juste pas qu'on pense que c'est quelque chose qui va pouvoir être la normalité plus tard que de se gouverner à coup de décret, parce qu'on le voit là. Là, on peut bien dire que c'est au niveau économique, les petits commerçants ou des gens qui perdent leur emploi, mais la perte, nous, en tant que conseil des maires démocratique, je pense qu'il faut peut-être au moins envoyer ne serait-ce qu'un signal, mais au lieu d'envoyer un signal, moi, je vous propose peut-être d'y réfléchir jusqu'au prochain caucus. Et le conseil d'administration, j'aimerais que vous nous proposiez la réaction politique qu'il faut avoir sur ce biais de démocratie qu'on est en train de vivre.
J'aime vos propos, M. Hamel, parce que je pensais un peu comme ça il y a quelques jours, mais j'ai vu aussi toutes sortes d'informations contradictoires qui ont circulé. Et là, je vous avoue que j'étais plus dans la même ambiance, là. Parce que ce qu'on nous a présenté comme étant une affaire épouvantable du projet de loi 61, en tout cas, d'autres nous disaient que c'était complètement faux, que c'était pas comme ça. Fait que je me disais, oh bon sang, allez, au moment où Louis m'a demandé si on le mettait à l'ordre du jour, le projet de loi 61, j'y ai dit oui. J'ai dit, ça vaut la peine qu'on en discute. Je te dirais, ça fait 2 ou 3 jours. Bien, depuis ce temps-là, là, j'ai changé d'idée 2 ou 3 fois parce que j'ai eu de nouvelles informations. Et je t'avoue que je ne sais plus trop à quelle place qu'on en est. Mais je sais une chose. C'est que quand je regarde les libéraux réagir, je me dis, mon Dieu, ils ont la mémoire très courte, eux autres. Ils devraient peut-être se rappeler de ce qu'ils ont été et, ou de ce qu'ils sont encore. Mais je ne veux pas embarquer dans ça. Vous avez raison. On va essayer de faire, de réfléchir plus au projet de loi 61. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'informations qui ont circulé et elles ne se sont pas avérées vraies.
Et je terminerai, si vous permettez, en disant qu'il ne faudrait pas qu'il se passe avec nos démocraties municipales et le palier de gouvernance qu'on représente, la même chose qui est en train de se passer présentement en éducation. Je vous le dirais, pour le vivre de l'interne, c'est tout à fait normal que les gens ne savent pas ou donner de la tête. Et vous venez de témoigner de quelque chose d'important pour moi, M. Vachon, c'est que même nous, les élus, qui devons porter la vision à long terme, qui devons porter les projets, on ne sait pas quoi répondre à nos citoyens. Donc, je pense que la réflexion, moi, je nous suggère de l'amorcer et d'y revenir au Conseil des maires de juillet pour voir quelles seront nos positions. Et effectivement, comme vous, mon opinion change à chaque jour, mais il faudrait qu'en tant qu'élus, on puisse au moins exprimer les inquiétudes à ne pas savoir quoi répondre à nos citoyens quand vient le temps de parler de ce déficit démocratique-là. Et je termine là-dessus. Je vous remercie de m'avoir laissé m'exprimer, M. Vachon.
Parfait.
Excellent. C'est ça, à ce niveau-là, c'est noté. Puis oui, on l'apportera au prochain CA comme ça, comme point de discussion pour vous revenir au prochain Conseil des maires de juillet avec un plan de match à ce niveau-là.
Je vais prendre une proposition pour la levée de la réunion. Ne quittez pas cependant. Parce que Pascal Binet nous avait demandé de faire le tour concernant le déconfinement. Alors, on va quitter la réunion et elle va cesser d'être enregistrée et on pourra faire un tour de table pour ceux qui le veulent concernant le déconfinement.
Oui, puis à ce niveau-là, il y avait M. Talbot qui a levé la main pour la clôture de la séance, mais il y avait aussi des personnes qui venaient nous rencontrer du réseau d'entraide pour nous parler sommairement, rapidement d'un projet. Fait que peut-être qu'avant de faire le tour de table, comme ça, on pourrait les inclure à la rencontre pour qu'ils viennent faire la brève présentation, puis on pourra faire le tour de table après.
Parfait.
Fait que Cynthia, je ne sais pas s'il était prêt à se joindre à nous.
Qui vient de leur écrire pour leur dire de se connecter. Fait que peut-être vérifier pour les accepter.